Deuxième paracha, donc, concernant le Mishkan, ça commence Veata Tetzaveh Bnei Israël Vikru Elecha Shemen Zayit Zach Tatit Lamaor Lealot Ner Tamid. Drôle de façon de commencer, on n'a pas l'habitude, une façon de présenter les choses de cette manière-là. Ve'ata tetzaveh. On peut traduire, et quant à toi, ordonne. Ici, Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu la fonction d'ordonner. Quant à toi, ordonne. Et vikru elecha. Et ils prendront pour toi. Ils prendront vers toi, ils amèneront elecha. Un peu plus bas, on a encore une fois une formulation de ce type-là au début du chapitre 28. Ve'ata, akrev elecha et Aaron achicha ve'et banav ito, mitor bnei Israël chanoli, Aaron, Nadav, Abihu, Elazar v'Itamar, bnei Aaron. Et de nouveau, et quant à toi, approche Aaron, ton frère. De nouveau, et quant à toi, on avait il y a une nouvelle façon de parler. Hachem parle à Moshe, il lui parle maintenant d'une autre manière encore. Ve'ata. Et puis, un peu plus bas encore. Une autre façon, parce que jusqu'à présent, Hachem disait à mon cher Rabbeinu, Ve'asita, tu feras. Et ici, on ne lui dit pas tu feras. Ve'ata te savais, ve'ata akrev. Drôle de quant à toi, en fait. Même si, on t'a donné les ordres de ce que tu avais à faire. Alors, maintenant, tu dois ordonner. C'est intéressant parce que c'est un rôle qui est donné à Moshe Rabbeinu dans cette paracha où le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas. Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit à la suite du Vaudor, il lui a dit que laisse-moi faire, en quelque sorte, je vais détruire le peuple d'Israël. Et je vais recommencer un nouveau peuple avec toi. Et mon cher Rabbeinu a dit qu'il n'était pas partant. Et il a dit à Hachem, si tu ne pardonnes pas aux Bnei Israël, tu refuses de leur pardonner. Alors efface-moi de ton livre. Alors Hachem l'a effacé de la parasha de Tetzaveh. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Mais au lieu du nom de Moshe Rabbeinu, on lui donne une fonction encore presque plus importante. Ata Tetzaveh. Ou bien, c'est toi qui vas approcher Aaron, ton frère. Le nom de Moshe ne figure pas dans la paracha. Mais par contre, Au début de cette paracha, celui d'Aaron est répété 7 fois. Tout à fait exceptionnel. Il y a un midrash. Un midrash spécial, en fait. Dans Shemot Rabba, le midrash dit la chose suivante. Le midrash commence par un passouk de Tehilim qui est mis dans la bouche, si on peut parler comme ça, d'Hachem. Loulé Toratra Sha'ashuai. Azavati Beoni. S'il n'y avait pas la Torah, c'est quand, c'est David qui parle, mais en fait, Hachem dit, si je n'avais pas eu la Torah pour jouer avec elle, en quelque sorte, j'aurais détruit mon monde. Alors, le Midrash dit, que c'est Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Ve'ata hakrev elecha. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, et quant à toi, approche de toi, Aaron, ton frère, et ses enfants. Donc, tu vas les singulariser, Mitor Bnei Israël. Tu vas les sortir de l'ensemble des Bnei Israël. Lecha Anoli, pour qu'ils soient mes Kohanim. Alors le Midrash dit, quand Akadosh Baruch Hu a dit ça à Moshe Rabbeinu, Eralo, Moshe, ça ne lui a pas plu du tout. Et Hachem a vu que ça ne lui plaisait pas, alors Hachem lui a dit, Torah haïtali, j'avais la Torah, untati alach. Et je te l'ai donnée, cette Torah. Cette Torah chez Loulehi, Ibati en l'ami. Si je n'avais pas eu cette Torah, j'aurais détruit mon monde. Et le Midrash amène un machal, une parabole. La parabole, c'est la suivante. Parabole d'un chacham, chez Natal Krovato. Il a épousé une proche. Ve'asta imo eser shanim ve'lo yalada. Et elle a vécu avec lui pendant 10 ans et elle ne lui a pas donné d'enfant. Amarla, pardon, il lui a dit, le Chacham a dit à cette femme, il lui a dit, Bakshili Isha, trouve-moi une femme. C'est une humiliation. Et la femme, elle le prend mal, évidemment. Alors il lui dit, Yachol ani litol chutz mirshuter. Je pourrais très bien épouser une femme sans rien te demander. Et là, chez Annie, chez Haïti, Mevakesh, Anvetanouter. Mais je fais appel à ton humilité. Kachamara Kadoshbuchu le Moshe. J'aurais très bien pu nommer Aaron ton frère comme Cohen Gadol sans te demander ton avis. Et là, chez Vakesh, j'étais Gadol Alav. Je voulais que tu sois au-dessus de lui. Parce que c'est toi qui vas le recruter en quelque sorte. Celui qui recrute est au-dessus de celui qui est recruté. Cette histoire de donner la couronne de là à Aaron, c'était un problème Pourquoi? Parce que initialement, c'était Moshe qui devait être Kohen Gadol. On a au début du Sefer Shemot, enfin, c'est au chapitre 4, quelque chose comme ça, on va voir. Pas sûr que c'est marqué. Quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu d'aller pour faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim et que Moshe ne voulait pas, alors ça a duré une semaine et au bout de cette semaine, Vayichar af Hachem, la colère d'Hachem s'est déclenchée en fait de Moshe contre Moshe. Et il lui a dit, Alo Aaron Achicha à Lévi, Yadati, Idaber Yidaber, Hu, Vigamine Hu, Yotselikratecha, Viracha Vesamach Bivu, Vidibarta Elav, Vesamta et Advarim Befim, Vanochi Eye Impicha, Vimpihu, Voreti Etrem, Metashartasun. Le dîber ou le cha, l'âme, va yahoui et le cha, le paix, va tati et l'olé Elohim. Ici, c'est le texte dans lequel Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ok, tu veux pas? Alors c'est Aaron, ton frère. C'est lui qui. C'est lui qui va devenir le Kohen Gadol. Et dans le dialogue avec le peuple et avec Paro, c'est lui qui parlera. Moi, je vous inspirerai. Lui sera ton porte-parole. Et toi, tu le dirigeras. Donc, la sanction, si vous voulez, elle a été prise à ce moment-là, elle a été décidée à ce moment-là, et concrètement, ça se réalise maintenant. Akrev et Aaron Achicha. Maintenant, Rashi dit, Akrev et Tigamer Melechet Mishkan. Quand on aura terminé, quand vous aurez terminé le travail de construction du Mishkan, alors prends vers toi Aaron, ton frère, et ses enfants avec lui, le Kadcho, pour le sanctifier, le Chahanoli. Le Kadcho, toi tu lui donneras de la Kdusha, ou l'achnisom be'keuna aliede abgadim, li. Et tu vas le sanctifier, et cette sanctification, elle va faire en sorte, il va entrer dans la keuna. Comment est-ce qu'il va entrer dans la keuna? En revêtant les vêtements. Mais la chambre que vous n'avez, chez vous tout. Et l'expression kehuna, ça veut dire le service. Voilà, donc c'est ce que dit le Midrash, c'est sûr que pour Moshe, la comparaison est assez terrible. Enfin, on compare Moshe à une femme qui n'est pas répudiée, mais qui est n'ayant pas fait une des choses qu'on attendait d'elle. Et il lui est demandé de trouver une autre femme qui, elle, va faire ce qu'elle-même n'a pas fait. Alors, on a l'impression que c'est une humiliation. Et donc, Moshe, l'a pris comme une humiliation de devoir lui-même nommer Aaron comme Kohen Gadol à sa place, en fait. Alors, Hachem lui dit, mais pas du tout. J'aurais très bien pu le faire directement. Mais je sauve les meubles, en fait, pour toi. Au lieu que, à côté de toi, il y ait tout à coup quelqu'un, une espèce d'alter ego, d'accord, que tu l'as même pas vu venir, quasiment. Il est tout à coup à côté de toi. Pas du tout. C'est toi qui vas le recruter. Toi qui vas le désigner. Donc tu vas te trouver au-dessus de lui. Donc, quelque part, c'est vrai que je t'ai enlevé la kehuna, merci. Je t'ai enlevé la kehuna, mais je t'ai donné une supériorité par rapport à lui. Je t'ai mis au-dessus de lui. Le Hamed Davar, il traduit les choses de la manière suivante. Akrevelecha, Ba'asher Tarim, Ba'asher Herim, pardon, Kash, Ba'asher Herim, Akadosh Baruch Hu, Koach haTorah yoter mikoach haAvodah. Mishum achi, amar hakrev elecha, shetei maalato krova lemaalatcha, ve'im she'eno magia la beshlemut, comme c'est marqué dans la Gemara, que le Keter Torah est beaucoup plus grand que le Keter Avoda. C'est-à-dire, t'es mis en position, enfin, Hachem a voulu montrer que la couronne de la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, est plus importante que la prêtrise. Donc il a mis la Torah au-dessus de la prêtrise. Donc, alors quand je t'ai dit Akrev Elecha, c'est-à-dire rapproche-le de toi. Ça veut dire, rapproche la kehuna de la Torah. Je la rapproche, mais elle restera toujours inférieure. Ça veut dire que la kehuna, c'est une approximation de la Torah, mais elle est inférieure à la Torah. Alors, si vous voulez, on peut réfléchir un peu à ça de la manière suivante, je crois. On a l'habitude de dire que quand on avait le Beth Amikdash, c'était le top niveau. Dans ce Beth Amikdash, on apportait des korbanot. Aujourd'hui, on n'a pas de Betamigdash, et disons qu'on peut pas, ça se discute halakhiquement si on ne pourrait pas quand même apporter certains korbanot, même si on n'a pas de Betamigdash. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas, halakhiquement, ça se discute. Mais, donc, il n'y a pas de korbanot. Pardon? Mais alors, à quoi il sert?
Alors, est-ce qu'elle est entrée là? Oui, entrée.
Donc, on a l'habitude de voir. Donc, le top niveau, c'est le Beth-Amikdash avec les corbanotes. Comme on ne peut pas apporter les corbanotes, alors on a remplacé les corbanotes avec le fameux principe qui s'énonce « Neshama parim sfateinu ». C'est-à-dire, on va remplacer les taureaux, c'est-à-dire les bêtes qu'on amène comme corban, par le produit de nos lèvres, c'est-à-dire par la parole. C'est-à-dire que, au lieu d'apporter la bête comme corban, comme c'est précisé dans la Torah, on va lire le texte, étudier le texte de la Torah, le texte qui correspond, et ça remplacera les parim. Donc quand on le dit de cette manière-là, on a l'impression que c'est un pis-aller, c'est-à-dire on n'a pas ce qu'il faut. On va le remplacer par autre chose dont on a un peu l'impression que c'est pas aussi bien. Mais tel que c'est décrit ici, pas souple, en tout cas tel qu'il est lu par le Ahmed Davar, et c'est comme ça que lise le Nefesh HaChaim et d'autres. C'est pas comme ça. La réalité, c'est la suivante. De façon idéale, comme on a vu, la Torah, c'est le meilleur. Et donc, d'une certaine manière, la bonne façon de faire, ce serait par le biais de l'étude, par le biais de ce qui est la spécificité de l'homme, c'est-à-dire la parole. Par le biais de la parole, on va, un corban, c'est une procédure d'approche, n'est-ce pas? On traduit, on a déjà vu souvent, on traduit en français par sacrifice, mais dans le mot corban, il n'y a absolument aucune des connotations qu'il y a dans le mot sacrifice. Corban, c'est construit sur Koufresh-Bet, Karev, Karov, Par, ça veut dire proximité, c'est-à-dire c'est une procédure de rapprochement. On essaie de se rapprocher d'Hachem. Pourquoi il faut se rapprocher? Parce que on s'en est éloigné, par exemple en faisant des fautes, ou bien on se sent éloigné et on a envie de se rapprocher. Alors la Torah dit, si tu veux te rapprocher, voilà des procédures qui te rapprocheront. Apporte un corban. Mais, tel que c'est décrit ici, la vraie procédure de rapprochement, c'est l'étude de la Torah, parce que la Torah, c'est la parole divine. Et on peut voir les corbanotes comme, si vous voulez, comme Rambam dira que c'est une concession à l'esprit du temps. Mais même si on ne va pas jusqu'à le dire de cette manière-là, mais que c'est une concession dans la mesure où c'est extrêmement difficile d'avoir une relation avec Hachem qui est quelque chose de complètement abstrait, dont on n'a aucune représentation. Comment on fait? Concrètement, c'est-à-dire un goy qui fait sa prière, il se prosterne, etc. Un juif, il ne se prosterne même pas, il se tient debout devant Hachem. Et il peut se tenir n'importe où. Les idolâtres, ils ont une statue, ils ont quelque chose, ils ont une croix, ils ont un truc, un machin. Ce qui est demandé au peuple d'Israël, c'est très très difficile. Et donc, pour faciliter les choses, en quelque sorte, on leur a dit, au lieu de travailler de façon complètement abstraite, vous pourrez travailler d'une façon un peu plus concrète. Alors, vous allez apporter des corbanotes, mais apporter des corbanotes, ça ressemble énormément à ce que font les goïms. Alors, vous allez apporter des corbanotes, mais ça va être très, très, très réglementé en quelque sorte. Vous ne pourrez pas faire, il n'y aura pas de spontanéité vraiment là-dedans. Ça va être, vous êtes obligé d'apporter des choses bien précises. Vous ne pouvez pas apporter ce que vous avez envie d'apporter obligatoirement. Ce doit être des choses bien précises. Quand c'est des bêtes de tel et tel âge qui n'aient aucun défaut, etc. Toutes sortes de conditions. Et vous ne pourrez de façon définitive, si vous voulez, vous ne pourrez les apporter que à Yerushalayim. Il n'y aura plus d'hôtel domestique, ni même de haut lieu, etc. Tout est, tu veux faire quelque chose, il faut que tu ailles. Tu habites au nord de la Galilée, il faut que tu ailles apporter ton corban à Yerushalayim. Il y a de quoi décourager les gens, hein, quelque part. Et donc, tel que c'est décrit ici, c'est pas que les corbanotes seraient mieux. Les corbanotes, c'est plus facile, d'une certaine manière. C'est plus, oui, c'est un peu plus facile et ça demande beaucoup moins d'investissement en réalité. L'investissement, ça consiste à dépenser de l'argent. Faut payer la bête. Mais tu amènes la bête à Yerushalayim, tu la donnes au Cohen, c'est le Cohen qui fait le job. Ça se passe même, tu le vois même pas faire. Parce qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, on voit rien quand on est à l'extérieur. Tu peux pas entrer là où se font les choses en général. Donc c'est, voilà, tu vas demander à quelqu'un de faire le travail. Et à l'échelle du Klal aussi, c'est comme ça. À Kippour, le Kippour qu'on lit dans les Marzorim, à Kippour, on lit à Moussaf, on lit le récit de ce que faisait le Kohen Gadol. À Kippour, c'était le Kohen Gadol qui faisait tout le job. Les gens ils étaient à l'extérieur et ils attendaient. Bon, après, quand ils sortaient, quand tout s'était bien passé, alors c'était la fête, la grande fête. Mais tout le inyan du vidouille, etc., tout ça, toute la avoda, c'était le Cohen qui faisait ça. C'était très physiquement difficile tout ce qu'il faisait, mais il n'y avait que lui qui faisait le travail. Maintenant, on peut plus. Maintenant, il faut faire le travail tout seul. À Kippour, on est tout seul. Alors, on se met ensemble pour donner une dimension, mais le Shliach Tzibour, il fait rien pour moi. Si je sais pas lire, alors il va lire et moi, je vais dire simplement Amen, etc. Mais si je sais lire, il fait rien pour moi. Je dois faire tout seul les choses. Vous comprenez? Ce qui est dit là, ici, ce qu'Hachem dit, il dit voilà, c'est pas toi qui vas faire le job, mais celui qui va faire le job de la Kehuna, il sera seulement aussi près que possible de toi, mais toujours inférieur à toi. Le Keter Kehuna, la couronne de la Kehuna, est plus petite que la couronne de la Torah. Le summum, c'est l'étude de la Torah. Les gestes sont disons, des approximations. C'est comme ça que ça se passe. Mais l'essentiel, c'est l'étude de la Torah. Pardon? Supérieur à la tfila, oui, a priori, parce que la tfila, ça remplace la
avoda.
Alors, nous, on sait, enfin, moi, je sais pas, je peux pas vous enseigner ça, je ne sais pas le faire. D'accord? Mais en théorie, on comprend très bien que c'est pas par hasard que le Aaron HaKodesh, il a des dimensions 2,5 sur 1,5 et 1,5. Bon, c'est pas fait au hasard, quoi. Disons, en gros, pour nous, c'est 1,25 m sur 75 cm. Et 75 cm. On fait une petite boîte. 1,25 m, c'est pas grand. Ça, le Aaron. Et la hauteur et la largeur, c'est 75 cm. Et ça, c'est dans, si je prends des hameaux de 50 cm. Possible que ce soit encore un peu plus petit que ça. Alors, on peut voir, hein, s'arrêter un peu là-dessus, voir le fait que, effectivement, il y a l'air d'y avoir une recherche qui fait que pourquoi des mesures sont des demi? Pourquoi c'est en demi? C'est beaucoup en demi. Toujours un et demi, deux et demi. Pourquoi pas un, deux, trois? Bon, toujours des demi. Il doit y avoir quelque chose dans le fait que c'est des demi. Le demi, quand on dit un demi-shekel qu'on doit donner à Martita Shekel, on comprend. C'est chacun doit comprendre qu'il est seulement un élément et qu'il a besoin du complément de quelqu'un d'autre. Mais dans le haron, il n'y a pas de complément du haron. Donc c'est quelque chose d'autre que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les kabbalistes, éventuellement, ils savent peut-être rendre compte de détails, effectivement. Pourquoi, que représentent les différents métaux qui sont utilisés? L'or, l'argent, le cuivre. Les couleurs, le bleu, les différents rouges, la pourpre, le carmin, etc. Tout ça, c'est évident que ça a du sens. C'est évident que symboliquement. Dans Hirsch, Shimshon Ophahel Hirsch, il explique un peu les choses. Pas dans tous les détails, mais il explique un peu justement l'usage de ces quels métaux, pourquoi, quels sont les métaux les plus nobles ou bien les plus solides ou bien les couleurs, à quoi ça fait penser, le rouge. La vie, quoi, le bleu, c'est plutôt le ciel, etc. C'est bon. Tout dans le complet détail, pourquoi le Khtoret s'est fait avec ces parfums-là et pas d'autres, etc. J'en sais rien. Je ne sais pas l'expliquer. J'ai pas de doute que ça a du sens, mais je ne sais pas l'expliquer. Donc, à votre question, est-ce que je peux le réaliser dans ma tefila? Ben, comme je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne peux pas le faire. Oui. Et non, parce que quand on apporte un corban et que le corban c'est un animal, parce qu'il y a aussi des corbanotes qui sont des galettes, il y en a qui sont plus ou moins tunisiennes, ça veut dire, ou bien avec beaucoup d'huile ou peu d'huile. Bon. Et autrement, quand c'est un corban avec un animal, il y a deux parties distinctes. Quand on fait la shrita de l'animal, il y a du sang qui va couler. On recueille ce sang. Et ce sang, on va le recueillir, et puis on va envoyer des gouttelettes de ce sang sur l'autel. Vous appelez aspersion, c'est des gouttelettes, hein, qu'on envoie. Ça s'appelle, ça c'est tout le travail qui amène la kapara. Quand un korban amène une kapara, c'est-à-dire quand le korban amène, disons, un pardon de la faute, si c'est une faute, ou bien il nous rapproche vraiment, le problème, c'est l'aspersion. Une fois qu'on a fait ça, alors, avec la chair de l'animal, on a dépecé difficilement l'animal, bien entendu, et puis il reste de la chair, enfin de la chair, des os, et il y a le sang, je vais dire ce qu'on fait, on en fait, et avec la chair, on la mange, on va la griller, on va la manger. Il y a les corbanotes qui sont entièrement consumés, c'est-à-dire toute la viande est brûlée. Entièrement, c'est, si vous voulez, c'est mangé par le Mizbéa, par l'autel. Et puis d'autres fois, dans le Corban, c'est mangé par, ou bien dans certains cas, les propriétaires du Corban, celui qui a payé le Corban, qu'il a amené, ou bien celui pour lequel on a amené le Corban, ou dans le Corban Khatat, si le Corban vient parce que on doit apporter le Corban parce qu'on a fait une faute, Beshogeg par exemple, on amène le Corban et c'est les Kohanim qui mangent la viande. Et pas les propriétaires. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, effectivement, on n'a pas le droit de manger la viande avant d'avoir aspergé, avant d'avoir envoyé les gouttelettes de sang en direction de l'isbert. Oui, c'est des gouttelettes, c'est tout un problème. Est-ce que on peut pas avoir des, on peut pas en mettre beaucoup parce que ça va sur l'autel. Et si on en mettait beaucoup, ça va éteindre le feu. Et on n'a pas le droit d'éteindre le feu de l'autel. Mais c'est des gouttelettes, ici qu'elles arrivent là-bas, elles sont évaporées complètement. Et quand il reste du sang, on le verse sur le socle du misbéar, en bas, sur Le sang, c'est la vie, bien sûr. Pardon? Bah, c'est en fait, on met le sang sur l'autel, quoi, quelque part. On met la, on sacrifie la vie, quoi. On donne sa vie, c'est une façon de donner la vie de pour HM. Non, non, certains expliquent qu'il faut considérer que ce qui arrive à l'animal, ça devrait nous arriver à nous. Alors, seulement on n'a pas le droit de sacrifier les êtres humains. Alors on a, d'une certaine manière, substitué l'animal à l'humain. C'est ce qu'Abraham Avinu a fait avec Yitzhak. C'est lui qui a inventé la substitution. Avant, on apportait, c'était des offrandes. Mais l'idée qu'on puisse substituer un animal à un humain, c'est l'invention d'Abraham. Quand il a amené le, il a pris le bélier à la place de Yitzhak, puisqu'on ne l'a pas laissé sacrifier Yitzhak, il a sacrifié le bélier en lieu et place d'Yitzhak. Et on va dire, on voit très bien que par la suite, on va dire que les cendres, le bélier a été sacrifié, il a été complètement brûlé, et les cendres, en quelque sorte, sont considérées comme les cendres d'Yitzhak. Elles sont appelées les cendres d'Yitzhak, à un autre endroit. C'est vraiment la substitution.
HM qui a dit, et alors, HM, pourquoi la Bible a dit ici? Pour nous, par exemple, peut-être qu'on retient. On fait la suite d'accord à la place, mais pour rejoindre ce dans les jardins, on doit s'impliquer, on doit.
Oui, alors le Ramban dit, il devrait s'impliquer, ça veut dire se dire que, si vous voulez, l'idée de base, c'est quoi? Quand il s'agit de, disons, quand on apporte un corban parce qu'on a fait une faute et que la Torah nous dit qu'il doit apporter un corban. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Hachem t'a, il nous a mis dans le monde et il a donné les règles du jeu. Tu respectes pas les règles du jeu. Le ticket est plus valable. Donc, en vérité, on devrait mourir. D'accord? Le rachamim d'Hachem, c'est qu'on meurt pas. Qu'il admet une notion de substitution. Mais la vraie substitution, elle a son plein sens, c'est fait le travail de la substitution. Dis-toi bien que, en vérité, c'est toi qui devrais être dans cette situation-là, parce que tu t'es disqualifié, tu es dans un monde, tu es chez quelqu'un qui, pas quelqu'un, mais bon, C'est comme si tu étais chez quelqu'un et puis tu ne respectes pas les règles. Là, tu ne peux pas rester dans là où tu es. C'est ça que quand les fautes sont des fautes, qui sont faites, comme on dit, de mézide, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, c'est volontairement la faute. Dans ce cas-là, dans les sept mitzvot d'Ebné Noach, la seule sanction qu'il y a, c'est la mort. Et pour l'Ebné Israël, Akadosh Baruch Hu nous a fait une fleur, en quelque sorte. C'est au lieu de la mort, il y a les coups. Mais des coups qui ne doivent pas donner la mort. Mais si vous voulez, les coups, c'est une substitution de la mort. Normalement, tu devrais mourir, mais Hachem a fait une fleur au clan d'Israël, qu'au lieu de les condamner à mort, ils sont condamnés à recevoir des coups.
C'est pas c'est forcément parce que à la pomme se réveille. L'écoute, c'est pour nous obliger à rentrer dans le profondeur du
Bon,
problème.
le problème, c'est là, quand il y a une sanction, si c'est la mort, alors bon, on ne sait pas comment c'est vécu. On te dit de faire tchouva parce que pour que ta mort ait un sens. Et là aussi, on lui fait faire tchouva pour que les coups aient un sens. Maintenant, les coups, effectivement, puisque tu dois vivre avec ça, mais tu dois vivre. Après les coups, on considère, chez nous, il n'y a pas de casier judiciaire. Quelqu'un qui a reçu les coups, il est ton frère. Complètement. Tu n'as pas le droit de lui mentionner les fautes qu'il a faites. Il a payé sa dette. Terminé. De façon générale, on n'a jamais le droit de rappeler à quelqu'un d'autre les fautes qu'il a faites. Si quelqu'un est un Baal Tchouva, on n'a pas le droit de lui dire, ah ouais, mais toi, tu sais très bien quel goût les moules avaient, etc. On n'a pas le droit de le dire. On ne peut pas le dire non plus à quelqu'un qui a fait une conversion, mais toi, tu connais parce que on n'a pas le droit. Et celui qui a fait la faute, une fois qu'il a fait tchouva, il a confessé la faute, il doit pas y revenir. Et il ne faut pas ça, revenir et reconfesser, parce que le Rambam dit que ceux qui confesse et reconfesse, etc. C'est comme un chien qui vient lécher son vomi. Quelque part, des fois, c'est pas clair. Ouais, c'est en fait, c'était quand même vachement sympa. D'accord, c'est pas évident. Et donc, bon, il y a tout ce qui accompagne le corban, mais ce travail-là, tu peux le faire en réfléchissant simplement. De le faire en essayant de bien réfléchir sur le texte. Le texte, c'est un texte qui est à commenter, etc., avec des commentaires, il y en a plus que, etc. Et ça va t'aider au moins aussi bien que d'apporter un corban. Bon, parce que arriver à apporter un corban et que ça soit pas simplement une amende que j'ai payée, quoi, à la limite, c'est pas plus que quand vous avez une amende pour stationnement interdit. Alors voilà, vous payez. Vous n'avez pas l'impression de. C'est tout, j'ai payé. Il s'agit pas, justement. Le problème, c'est, et c'est ça le risque, en fait, des korbanot qu'on amène dans le Beth Amikdash, etc., c'est de transformer le Beth Amikdash en un temple. Un temple, c'est un entrée de lieu où on paye sa cotisation, quelque part. J'ai payé ma cotisation, alors lâche-moi les baskets. C'est bon, c'est. Ça donne le système des indulgences et des trucs comme ça, quand ça dérive, quoi. C'est ce que les prophètes n'arrêtent pas de dire au Bnei Israël, au nom d'Hachem. J'en ai rien à faire de vos korbanot. Si vous conduisez à l'extérieur du Beth Amikdash comme des crapules, on n'a rien à faire. C'est insultant même. Ça veut dire, voilà, je t'ai payé, maintenant, je fais ce que je veux. Et donc, ce qui est important ici, la raison pour laquelle on a regardé ça, C'est parce qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, encore une fois, enlever à Moshe Rabbeinu la kehuna, mais il lui a dit, mais toi, c'est la Torah, et la Torah, elle reste supérieure à la kehuna. Donc, l'étude de la Torah est supérieure à la avoda. Et comme la tfila, c'est avoda chez Balev, alors elle est encore inférieure à la Torah. Mais d'une certaine manière, la prière, dans la mesure où elle se fait avec la parole, qui est la spécificité humaine, elle est supérieure au korban aussi, de ce point de vue-là. Le korban, c'est les gestes. La prière, c'est la parole, c'est humain. Le geste en question, bien sûr, c'est humain, mais c'est pas aussi haut, c'est les mains, quoi, et c'est pas la tête, c'est pas la réflexion, c'est pas la parole. Normalement, il faudrait accompagner le geste avec. Il faudrait que, quand on fait une mitzvah, il faudrait que la mitzvah soit l'aboutissement de ma réflexion sur le texte de la Torah qui le concerne. C'est-à-dire, quand je prends un loulav, il faudrait que dans ma tête, ce soit bien clair. Voilà, la Torah, elle m'a prescrit de prendre un arba minim, etc., et de les secouer, de me réjouir, etc., avec ça. Et maintenant, voilà, je fais les gestes en question. Mais pas simplement, je fais le geste.
L'étude de la Torah, en fait, pour mener au geste.
Alors, l'étude de la Torah, dans la mesure où. Alors maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce que on va imposer à tout le monde d'en passer par les gestes? Pourquoi Rabbi Akiva, par exemple, il est obligé de passer par les gestes? Lui, il est sûrement capable de faire le travail à partir du texte, simplement. Il n'a pas besoin. Pourquoi il fait? Lui aussi, il va être obligé. Mon maître aussi, il devait le faire. Enfin, si on pouvait le faire, il faut le faire. Pourquoi on doit le faire alors? C'est parce que, en fait, il y a un autre aspect qui est que Akadosh Baruch Hu, il veut résider dans le monde d'en bas. Donc, il accorde une importance particulière à ce que la Torah descende, si on peut parler comme ça, aussi bas que possible, au sens où elle commande tout, y compris les choses matérielles. La Torah s'intéresse à tout. Elle s'intéresse au lieu d'aisance, elle s'intéresse comment on se conduit quand on va se soulager. C'est quoi cette histoire? La Torah, elle nous accompagne dans toute notre vie, en fait.
Est-ce que ça, c'est une finalité?
Oui, Kadosh Baruch Hu, il veut résider dans les Tartonim, dans le monde le plus bas, y compris.
Le plus bas, c'est pas en nous. Faites-moi une résidence parmi vous. C'est en nous.
Oui, mais la résidence parmi nous, ça veut dire dans ton cœur qui est considéré comme l'organe de décision de tout ce que tu vas faire, que toutes les décisions concernant tous tes mouvements, d'accord? Ça soit pris en tenant compte des valeurs de la Torah. C'est ça que ça veut dire.
Alors ça, votre maître, le faisait. Lui,
Alors tout le monde le fait. On fait ça.
il
Alors non, lui, il faisait sûrement les choses. J'en sais rien, mais.
n'est pas produit fini, il ne sera jamais produit fini dans la.
Ce n'est pas le but de l'exercice, il s'agit de progresser.
Oui, et ça veut dire qu'on peut pas être fini d'être parfait et la tenue. Si on devient parfait dans cette action-là, on devient divin.
Oui, mais en vérité, le but, c'est bien d'agir d'une certaine manière divinement, puisqu'on agit sur l'ordre d'Hachem, donc c'est ça, agir divinement. Quand le flic il parle et il dit j'agis au nom de la loi, ben nous on agit au nom de la loi, donc il a une force. Pourquoi sa parole elle est plus lourde que la vôtre? Parce que lui, en principe, il agit au nom de la loi. Donc, quand j'agis au nom d'Hachem, j'agis divinement, quelque part.
Parce que ça rentre en résonance avec ce qu'Hachem a mis en
Bon,
état
le
et a
problème,
suivi.
comment fonctionne Vous dites que c'est la résonance. Je suis de... Bon, c'est très beau, c'est une très bonne image, mais la résonance, bon, c'est une super image. Et bon, c'est ça. Comment c'est exactement? J'en sais rien, je ne sais pas comment ça marche.
C'est pour votre semaine, vous ne pouvez pas s'arrêter. C'est impossible si s'arrête, c'est comme la tour qui tombe. Donc, même tout grand, il
Alors,
était grand.
en vérité, ce qui va se passer avec le clan Israël quand il sort d'Égypte, il entre dans un nouveau monde. C'est un monde différent. C'est un monde qui coexiste avec l'autre monde, mais on n'est pas gouverné par les mêmes lois. Ça s'est dit sous la forme de vous avez un autre calendrier. On a un autre temps et on est maître du temps. D'accord? Mekadesh Israël ve'azmanim. Hachem sanctifie Israël qui, à son tour, sanctifie le temps, c'est-à-dire les moadim, etc. Le Shabbat, non. Le Shabbat, il revient tous les 7 jours, c'est indépendamment de nous. Mais tout ce qui est lié au calendrier dépend de nous, puisque c'est nous qui fixons le début du mois. Donc, tout ce qui est calendrier, c'est fixé par les Bnei Israël. Ça, c'est une chose qu'on a déjà dit 20 fois. Donc, ça, c'est le Akre Velecha. Donc, c'est très, très important. Et c'est dit dans un moment où Moshe Rabbeinu, justement, il pourrait penser qu'il y a que le côté humiliation, là. Hachem ne dit pas du tout. C'est pas, ne prends pas ça comme humiliation. J'aurais très bien pu le faire sans rien te demander. Donc, mais l'image, c'est quand même l'image d'une femme stérile, là, en l'occurrence. On présente Moshe Rabbeinu, c'est un... Le Midrash, il est gonflé, je dirais. D'accord? Parce qu'il présente Moshe Rabbeinu comme une femme stérile. Et le Midrash dit que, là, en l'occurrence, la femme stérile, elle va dominer la femme qui éventuellement ne le sera pas, elle est au-dessus. En te donnant la tâche de recruter la femme en question, je te mets au-dessus de cette femme que tu vas recruter. Vous comprenez? La femme stérile, tout stérile qu'elle est, elle est placée au-dessus de la femme féconde, en fait.
Alors pourquoi ça a été jalouse de...
Parce que justement, elle n'a pas joué son. Tout ça, c'est quand ça se passe bien, la femme féconde qui a été recrutée, elle sait qu'elle est seconde. Ouais. C'est pas lui qui parle. Tu parles pas. Donc tu diffuses pas. Ouais. Quelque part. Alors, Hachem sait très bien pourquoi Moshe ne veut pas le faire. Moshe Rabbeinu aussi, il voulait pas, c'est pas qu'il voulait pas parler. C'est qu'il ne voulait pas prendre la place de son grand frère. Il dit, je vais pas, moi, arriver, planquer. Ah, c'est Aaron qui a souffert avec tout le monde. Et moi, j'arrive, tac, 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 planqué, je prends toutes les places. Je prends la place, moi, j'étais pas, moi, dans la souffrance de l'Égypte. D'accord, il a eu ses problèmes à lui. Mais c'est rien par. Il n'était pas esclave, mon cher Rabbi. Vous me direz, Aaron n'était pas vraiment esclave parce que lui n'était pas vraiment esclave, mais il était là à consoler, à soutenir tous les gens qui n'en pouvaient plus. Mon cher Rabbi, il n'a rien fait de tout ça. Il n'était pas là. Donc il dit, je ne vais pas aller prendre la place de mon grand frère. Alors Hachem lui dit, mais n'y a aucun problème. Moi, je témoigne qu'avant qu'on vienne, il va te voir, il va se réjouir. Aïe, c'est extérieur, peut-être c'est seulement il fait comme, bon, il fait bonne figure. Non, moi, dit Hachem, je témoigne que dans son cœur, il se réjouit. Et ça, mon cher Abinou l'a pas pensé. Il n'a pas pensé que Aaron pouvait, il est très grand, Aaron. Il est capable de se réjouir de voir arriver son frère, son petit frère, et prendre la place dominante. Il n'y a pas de, si Hachem en témoigne, ça veut dire qu'il n'y a aucun ressentiment là-dedans. Ces deux grands bonshommes, parce qu'on a à la fois une très grande fraternité entre Aaron et Moshe, et en même temps, une souffrance, Moshe qui voit que on lui enlève quelque chose et on le donne à Aaron.
Il y a la fois du groupe très, très, très supérieur et en même temps de l'humain. J'ai l'impression humain. Et il va faire de la peine à mon frère, alors qu'ils savent tous les deux qu'ils servent HM et qu'il n'y a pas de toi et de moi.
Savent très bien, mais la première fois quand Aaron va entrer dans le Mishkan et qu'il n'y aura pas de présence divine, ça marche pas. Il entre dans le Mishkan, mais qui doit être normalement la résidence d'Hachem, il n'y a pas de présence divine. Alors Moshe dit, bon, je vais aller avec toi. On va aller ensemble. Et ça marche. Et tout se passe comme si Aaron était content. Ah, ça veut dire, Aaron est content que sa présence n'est pas suffisante. Lui tout seul, il pouvait pas faire venir la présence, venir l'Hachem dans le Mishkan, mais Hachem n'est pas suffisamment fâché contre lui à cause du veau d'or pour empêcher que même avec Moshe, ça vienne pas, qu'il empêche Moshe de la faire venir. Et donc ils sont suffisamment. Et Moshe lui dit, je viens avec toi, mais c'est pour toi, c'est juste technique, quoi. Comme si c'est pas important, mais je viens aussi. Et comme ça, là, il y aura présence divine. Ils sont, quand on dit Inematov Manaim Shevet Achim Gam Yachad, d'accord, que c'est extraordinaire quand deux frères peuvent être ensemble, et on dit, mais qui c'est les deux frères en question? C'est Moshe Aaron. Il n'y a pas de frère qui, à part ça, ça marche jamais. Deux frères, les premiers deux frères, vous savez ce que ça donne. Caïn et Abel. Deux frères, ça fait un fratricide.
De changer entre ces deux pour expliquer cette évolution. Et les deux premiers, en vrai, vont le gérer. Donc,
Les deux premiers, c'est Caïn et Abel.
c'est pas l'imaginer. Qu'est-ce qu'il y a qui a fait que dans l'évolution, il y a eu, on a maintenant, on a eu une image de deux frères, positive, si on nous demande de frères, frères, on soit tous des frères, tous. Le début de notre histoire, c'est que des blanches.
Ces deux-là, ils sont néanmoins deux frères. Il y a deux autres frères qui ont fait un truc ensemble, quoi. Shimon et Lévi, qui ont massacré Shechem. Alors eux, ils ont dit, ouais, on peut pas rester les bras ballants quand on a fait un truc à notre sœur, quoi. On traite notre sœur comme ils disent comme une prostituée. On va pas laisser ça. Mais bon, ça c'est pas vu positivement. Yaakov est pas content. Eux, ils sont de la tribu de Lévi. C'est encore Je ne connais pas de texte qui le dise explicitement de cette manière-là, mais vous savez, quand Yaakov a décidé qu'il allait effectivement suivre le conseil de Yosef et qu'il allait descendre en Égypte avec toute sa famille. Alors, dans le passage, c'est marqué qu'il a envoyé Yehuda en éclaireur pour que Yehuda organise. Et Yehuda, c'est le roi. Il va organiser le campement de l'installation des Bnei Israël en Égypte. Mais ce qui est marqué dans Chazal, c'est que Yaakov a envoyé un Rosh Yeshiva. Yehuda, il va être le roi. Mais le Rosh Yeshiva, c'est celui qui va s'occuper de l'étude. C'est pas Yehuda, c'est Lévi. Il a envoyé Lévi comme Rosh Yeshiva. Et d'ailleurs, c'est ça, la tribu de Lévi va être la tribu qui, pendant l'exil, pendant l'esclavage, ne va pas être pour des raisons, du point de vue égyptien, c'est difficile à comprendre. Mais bon, quelque part, ils ont dû les prendre pour des prêtres, quoi, quelque part. Yosef, il avait aussi, il avait pris les terres de tout le monde, mais il n'a pas touché les prêtres. Les prêtres, on les a laissés de côté. Donc, est-ce que ça voulait dire que les prêtres, en Égypte, on comprenait que, voilà, ouais, les prêtres, on peut pas les réduire en esclavage de la même manière, donc, eux, ils n'étaient pas vraiment esclaves. Mais eux, ils ont gardé, de ce fait-là, eux ont gardé un peu de l'enseignement d'Abraham Avinu. Alors que les autres ont tout oublié. Alors, c'est possible que venant de cette tribu, de gens qui ont continué de garder l'enseignement d'Abraham Avinu, c'est-à-dire l'enseignement qui plus tard va s'appeler la Torah, quoi, quelque part, la Torah telle qu'elle va être donnée, alors peut-être ça, d'avoir vécu dans cette famille, qui était quand même une famille assez exceptionnelle, je ne sais pas pourquoi cette famille-là, d'accord, elle a quand même donné les trois parnessim du clan d'Israël. C'est injuste, quoi, quelque part. D'accord? Moshe, Aaron et Myriam sont les enfants du même couple. Ils sont les trois leaders du clan d'Israël. Donc c'est un peu fou. Bon, si vous voulez, on a l'impression que c'est pas vraiment réparti, quoi. Non seulement ils sont les trois Lévi, mais ils sont de la même famille d'Elvim. Une famille, la même famille, le même papa, la même mère. À part le fait que c'est un couple improbable, c'est un couple si la Torah avait déjà été donnée, il n'aurait pas pu se former, parce que Yocheved est la tante d'Amram, et on ne peut pas épouser sa tante, on n'a pas le droit, d'après la Torah. Mais on était avant Matan Torah, donc. Malgré tout, c'est un peu spécial. Non, dans l'autre sens, ça va. Un homme peut épouser sa nièce, mais un homme ne peut pas épouser sa tante. D'une certaine manière, quand ça va dans le bon sens, quand ça va vers l'avenir, ça va, un peu. Mais pas épouser sa tante quelque part, c'est une espèce de, ça ressemble à une forme de retour dans le ventre de sa mère.
Et si c'est sa tante par son père.
Des deux côtés. Alors, on a vu que la façon dont il va entrer dans la Kehouna, à Aaron, c'est par le biais des vêtements. Al yedei abgadim, shiyei kahen li. Donc, il va me servir. Donc, a priori, les vêtements en question sont des vêtements de service. Et dans le passouk, c'est écrit, Vaasita bigdei kodesh le'aaron achicha, tu feras des vêtements kodesh sacrés, saints, pour Aaron ton frère, le chavod ou le tifaret. Pour le kavod et pour la splendeur, pour le poids, pour lui donner du poids et de la splendeur. Kavod, c'est quelque chose qui se, c'est un dévoilement de la gloire divine, si vous voulez, betoch ateva, dans, à l'intérieur des lois de la nature. Un peu dans le système malé, melo kol haaretz kvodo. C'est-à-dire, on voit aussi la présence divine, elle remplit la terre, elle est visible. Le kavod, c'est quand c'est visible. Tiferet, c'est un dévoilement au-dessus de la Torah. C'est-à-dire, enfin, que ce soit par, par miracle ou par prophétie, ou bien par la Torah, comme on dit, Tiferet, Zumatan Torah. Tiferet, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est au-dessus du de monde matériel. Et donc, il y avait ces deux dévoilements dans le Mishkan. Vous vous souvenez, on avait dit, pour Ramban, le Mishkan, c'est une forme de Sinaï portatif, en fait. Donc, il se passe dans le Mishkan la même chose que ce qui s'est passé au Sinaï. Alors, il y avait évidemment au Sinaï du Kavod, de la gloire divine. Puisqu'à ce moment-là, la nature était complètement purifiée, en fait. Et de ce fait, enfin, pour arriver à ça, tous les ustensiles du Mishkan puis du Beth Amikdash, chacun d'entre ces ustensiles-là avait un pouvoir de kapara. On lui dit la même chose sur les vêtements. Tel et tel vêtement porté par le Kohen Gadol, il assurait à l'échelle du Klal Israël, il assurait telle ou telle qualité, développait telle ou telle qualité. Le Hamek Davar là-dessus, que je vous ai dit là, c'est Rashi. Le Hamek Davar dit, on va expliquer sur ce verset, le Chavod ul Tifaret, on va expliquer que Aaron, il devait se sanctifier lui-même. Et il devait se conduire de façon extrêmement pieuse et devait se séparer, se singulariser parmi les Bnei Israël. Et ça n'est pas possible sans que, aux yeux de tout le monde, il ne soit pas singularisé aussi par les vêtements qu'il porte. Il faut que les gens voient et comprennent qu'il a un niveau supérieur. C'est pour ça que les vêtements servaient pour les Bnei Israël, que les Bnei Israël voit bien qu'il y a un problème de kavod et de tiferet. Et donc, ils comprennent que Hachem voulait qu'il y ait cette prestance, qu'il y ait cette splendeur, pour que le Mishkan soit vraiment un support de la présence divine, en fait, pour qu'il puisse y avoir dans le Mishkan la présence divine. Et ça va être une exigence qui va être formulée pour tout Kohen Gadol, pas seulement pour Aaron en son temps, mais pour tous les Kohanim Gdolim dans l'histoire. Par contre, les vêtements des Kohanim, les vêtements du Kohen normal, eux, ces vêtements ne sont pas le Chavod ul Tiferet. À part le béret là qu'ils avaient, un chapeau. Donc ils avaient des vêtements fonctionnels, mais c'est tout. Vêtements spéciaux, mais pas plus que ça. Alors, de nouveau, Ve'ata, et quant à toi, tu d'abord, El Kol Chachmelev, toujours à Moshe, dans le verset 3, tu parles à tous les sages qui ont cette chokhmah particulière qu'on appelle chokhmat lev, littéralement la chokhmah du cœur, c'est une certaine sensibilité, disons. Oui. Asher milaitiv ruach chokhma, que j'ai rempli d'esprit de chokhma, de sagesse, tu vas leur parler. Ve'asu et bigdei Aaron, et ils fabriqueront les vêtements d'Aaron, le kadsho, le chanoli, pour le sanctifier, pour qu'il puisse me servir. Et d'où, maintenant, on énumère la liste des vêtements que le Kohen Gadol, les 8 vêtements que le Kohen Gadol va porter. Le Kohen normal, il a 4 vêtements, et le Kohen Gadol en a 8. Et pour faire ces vêtements-là, ils vont devoir prendre de l'or, du trélet, c'est-à-dire de l'azur, de la pourpre, du carmin, et du lin, etc. Tous ces matériaux-là qui sont nécessaires pour fabriquer les vêtements du Kohen Gadol. Bon, il y a des détails de la fabrication de ces vêtements. On va regarder encore un point plus loin. Dans le chapitre suivant, le 29. Est-ce que le... Oui, que tout le monde voit bien. Qu'il a un niveau supérieur, quelque part. Ouais. Alors, dans ce verset, donc, dans ce chapitre 29, le verset 42, même bête. Olat Tamid, le Dorotechem, une Ola, c'est un holocauste, donc c'est un corban où toute la viande est brûlée. Tamid. Tamid, ici, ça voudra dire, il s'agit de, Tamid, ça veut dire de façon permanente, mais là, le permanent en question, le Tamid en question, Rashi dit, Miyom el yom, lo yafsik yom bentay. Ça veut dire chaque jour. on sautera pas de jour. Donc on voit ici que le toujours ne veut pas dire de façon continue. D'accord? C'est discret, ça veut dire c'est chaque jour, une fois par jour, jusqu'on saute pas de jour. Donc, vous la porterez Petacho el Moed à la porte du Mishkan, Lifne Hashem, devant Hashem. Asher Ivaed Lachem Shama et Daber Elech Hasham. Que je me réunis, je vous rencontrerai là-bas pour parler avec toi là-bas. Hashem dit à mon cher Rabbeinu qu'il va le rencontrer là-bas. Et il va lui parler dans le Mishkan, évidemment. Donc, eux, ils ont traduit. En offrant d'élévation perpétuelle, donc Ola. Ola, ça veut dire, c'est Olé, ça monte. L'Holocauste, ça monte entièrement. Il part entièrement en fumée, quoi, puisqu'il est entièrement brûlé. Pour toutes vos générations, à l'entrée de la tente d'assignation, c'est comme ça qu'il traduit Torah et Moed, devant Hachem, l'Ipne Hachem, où je fixerai mes rendez-vous avec vous pour t'y parler, pour te parler à toi, mon cher. Là-bas. Je fixerai là-bas mes rendez-vous avec l'Ebné Israël et il sera sanctifié par ma gloire. Donc, ce Mishkan, il sera sanctifié parce que ma gloire s'y déploiera, ça veut dire, voilà, je me manifesterai là-bas. C'est-à-dire que quand je fixerai, Rachid dit, quand je fixerai un rendez-vous avec vous pour te parler là-bas, c'est à cet endroit-là que je te parlerai. Comme vous savez certainement, quand Hachem parlait avec Moshe Rabbeinu, la voix que Moshe Rabbeinu entendait, elle semblait venir, ou elle venait, de l'entre-deux chérubins. Sur le Haron, il y avait les fameux deux chérubins, et entre les deux chérubins, il semblait que la voix, elle venait de cet endroit-là, d'entre les deux chérubins. Viesh et Rachidi, Viesh Miraboteinu, Medim Mikan, Shemeal Amizbeach Anachoshet Ayakadosh Bokum Daberim Moshe, Mishé Ukama Mishkan. Il y en a qui veulent dire que Hachem parlait avec Moshe et la voix, elle venait au-dessus de l'autel de cuivre. Et d'autres disent, mais à la caporette, comme je vous ai dit, ça venait du caporette, c'est-à-dire du couvercle de Aaron, entre les deux chérubins, comme c'est marqué, Védibarti, itra, mais à la caporette. Il y a un verset qui le dit. Ma chère Evaed lachem, amour kan, et non amour à la misbeach, et là, oel moed, aniskar bamikra. C'est-à-dire, en fait, donc Rashi prend position et il dit qu'il préfère donc la deuxième lecture, celle qui fait que Hachem se rencontrera, donc il va parler entre les deux Krouvim. Si on pense que effectivement Hachem parlait avec Moshe et la voix elle venait d'entre les deux Krouvim, Vous savez que les deux Krouvim, un représente, un représente Hachem et l'autre représente le clan d'Israël. Alors ça représente les relations entre le clan d'Israël et HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la voix, elle vient comme si elle venait de l'antre, de ce qu'il y a entre Hachem et le clan d'Israël. Or, ce qu'il y a entre le clan d'Israël et Hachem, c'est quoi? Ben, c'est la parole divine qui s'adresse au clan d'Israël. C'est ça qui est entre les deux, c'est-à-dire la Torah. Comme ça, on dit la même chose. On dit que quand deux personnes étudient la Torah, Shchina Benehem, la présence divine est entre les deux. Donc, elle n'est pas ni chez l'un ni chez l'autre, elle est entre les deux. Elle est la présence divine, elle est dans le dialogue entre les deux, dans ce qui circule de Torah de l'un à l'autre. Ça, c'est la même chose ici. Et circule de Torah entre HaKadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. C'est ça la source, c'est la Torah. Parce que c'est la parole divine, la Torah. Donc voilà, elle vient de là. Elle est là. Dans cette circulation, en quelque sorte, de la parole divine. Que ça veut dire qu'Hachem jouait avec la Torah? Je ne sais pas très précisément ce que ça voulait dire. La notion de jeu, ça veut dire l'image que j'ai de ça, c'est on disait que du Khatam Sofer, que quand il était fatigué de son étude, il avait sur son bureau des petits diamants, quoi. Et il faisait couler ça. Donc, il y avait un jeu de lumière. Et c'était ça que c'était apaisant quelque part. C'est un jeu de lumière pour être un peu apaisé. Donc, j'ai l'impression, c'est ça l'image que j'ai. Hachem joue avec la Torah. Il joue avec sa parole, quoi, quelque part. Parce que c'est une parole qui est tellement riche. Ça veut dire qu'elle a tellement de facettes, la parole divine. Que jouer avec, ça veut dire justement, c'est l'éclairer de toutes sortes de manières. C'est ça que ça voulait dire, jouer avec. J'en sais rien. Moi, je me représente quelque chose comme ça. Si vous avez d'autres représentations, si c'est vraiment très intéressant, ça m'intéresse. Et pour moi, je le vois comme ça.